Dans le cadre national du mois sans tabac, un groupe de jeunes de la mission locale d'Evreux et Principe Actif ont coproduit une émission sur la thématique du tabac. Nous avons décidé d'aborder ce sujet de manière différente afin d'apporter notre vision. Pour animer ce programme, nous avons Carole, Pauline, Andreas, moi-même, Sylvain, accompagné de Timothée et JC.
Principe Actif, c'est actif par principe.
Au sommaire de cette émission, nous retrouvons des micro-trottoirs, des extraits Cache Investigation et de l'INA. Nos invités, donc Monsieur Lange Lampa et Madame Chéron, les... Duxapa.
Bonjour.
Bonjour.
Présentez-vous en quelques mots.
Alors, en deux mots, donc, Grégory Lange, je suis responsable d'un XAPA, donc, sur le centre-ville d'Evreux, de l'AMPA, la NPAA. Et donc, c'est un centre d'accompagnement où on accompagne toute personne par rapport à des demandes liées à des consommations de produits psychotropes ou des addictions.
Donc, Émilie Chéron, je suis coordinatrice du XAPA, centre de soins d'accompagnement de prévention en addictologie, du NHN et de l'association L'Abri. Donc on est basé à Évreux, au 47 rue de la Forêt, sur le quartier de la Madeleine, et on accompagne des personnes en situation d'addiction. Donc centre de soins et puis aussi des appartements thérapeutiques.
Tout de suite, un micro-trottoir qu'on a tourné dans le centre-ville d'Évreux. Et du coup, on va vous inviter à réagir.
À votre avis, pourquoi les personnes commencent à fumer ?
Il y en a certainement parce que ça fait bien quand on est jeune, d'autres parce que c'est le stress, certainement, et puis un effet de mode peut-être. Alors après, c'est vrai que c'est une drogue, et pour s'en sortir, il faut avoir un grave problème pour comprendre.
J'ai été jeune aussi, c'est-à-dire on a une culture du tabac, parce qu'il y a quelques années, mon père fumait. Donc je pense qu'après, inconsciemment, s'il y a des parents qui fument, il y a une grande probabilité que des enfants derrière le fument. C'est toujours un mimétisme, hein, c'est comme des fois dans les films, on voit quelqu'un boire, bon, il y a des gens, hop, ils se lèvent pour aller boire, bon, c'est un peu comme ça. Donc je pense que c'est une culture... déjà assez ancienne, où fumer ça faisait bien pour les garçons, c'est comme si on était un homme parce qu'on fumait, voilà, c'était comme ça.
C'est un petit peu comme l'alcool, c'est un petit peu un vice si on veut. C'est un petit peu un vice, je crois que c'est un vice. Hein. Parce que bon, fume qui veut. Hein. Moi j'ai fumé pendant jusqu'à 32 ans, à l'armée je fumais beaucoup, parce qu'ils nous donnaient 15 paquets tous les mois de Gauloises. En plus, en plus de ce que j'achetais. Et comme j'ai vu le mal que ça faisait, j'ai arrêté à 32 ans.
Parfois, c'est plus l'effet de groupe, je pense, qui joue. Voilà, ça, c'est agréable de fumer en groupe. Peut-être quand on est jeune, on veut faire un peu comme les autres et fumer. Et puis après, une fois qu'on commence, c'est difficile de s'arrêter. Je pense qu'il y a beaucoup de fumeurs qui fument alors qu'ils ont envie d'arrêter.
Souvent par habitude et parce qu'ils en voient d'autres. Je pense que c'est plus par habitude et par la proximité de gens qui fument autour d'eux.
Parfois, c'est pour oublier quelque chose. On fume, on est content, mais ça vous rattrape. Hein.
Et surtout les jeunes maintenant, c'est festif avec les collègues, avec les copains. Tiens, ils fument, je fume, on essaye. Après, il y en a qui deviennent accro et après, on ne peut plus s'en sortir, malheureusement.
Alors, d'après vous, Monsieur Lange et Madame Chéron, pourquoi les gens commencent à fumer aujourd'hui ?
Il y a pas mal de choses qui ont été exprimées dans ce micro-trottoir qui est assez intéressant. Il y a vraiment des discours différents. Pas mal de choses reviennent. Hein. Le mimétisme aussi, faire comme les collègues. Le rituel, voilà, qui fait qu'on renouvelle une expérience et que régulièrement on fait un petit peu la même chose. Il y a un rapport de dépendance. Hein. C'est évoqué comme étant une drogue aussi. C'est vrai qu'en termes de dépendance, le tabac est un des produits les plus accrocheurs. Ça, faut le rappeler. Et qui fait que peut-être que si on fume, c'est pas pour avoir moins de stress. C'est surtout parce qu'il y a une dépendance et que fumer recharge un niveau en nicotine et abaisse le niveau du stress du fait qu'on est dépendant. Il y a des choses éminemment plus complexes qui ont été évoquées. L'histoire en relation avec le tabac. Aujourd'hui, on sait beaucoup plus de choses sur le tabac. Il y a un monsieur ici, son micro-trottoir, qui évoque qu'avant, ça faisait partie de sa solde de militaire, ce qui explique pourquoi il a fumé. Sur la question du vice, Là, j'irai peut-être pas, mais je verrai avec ma collègue Émilie Chéron, mais j'irai pas sur la question du vice, mais plutôt sur le fait que si au départ, peut-être des jeunes, ou moins jeunes, mais surtout des jeunes, commencent à fumer, c'est aussi pour transgresser des interdits, c'est aussi pour s'affranchir du discours des parents. Et qu'à partir de là, c'est pas du côté du vice qu'il faut le poser, mais plutôt du côté d'un moment particulier de l'adolescence où on revendique le fait de faire quelque chose, voilà, en rapport à son corps qui ne concerne que soi.
Ouais, je pense que c'est aussi une expérience qu'on essaie d'avoir quand on est jeune. Effectivement, il y a aussi l'interdit, transgresser. Ça reste un produit qui est quand même en vente, voilà, qui est légal. Après, c'est aussi l'histoire personnelle, ça je rejoins. Par contre, par rapport au vice, c'est peut-être un petit peu fort. Voilà, on est plus sur une question de dépendance et un produit qui est vraiment très... Il peut y avoir une dépendance assez forte et assez rapide aussi.
Une petite chose aussi, peut-être qui n'est pas exprimée sur le pourquoi est-ce qu'on fume, c'est la dimension de plaisir. Alors en disant ça, j'ai pas envie de dire fumer donne du plaisir, hein, parce que effectivement ça pourrait donner envie de consommer, alors que finalement ça devient très vite une mauvaise habitude, la dimension de plaisir se réduit considérablement. Mais si des personnes ont tant de mal à arrêter de fumer, c'est parce qu'à un moment donné il y a une dimension de plaisir. Et notamment par rapport à la maîtrise de ce qui rentre, de ce qui sort du corps, en aspirant la fumée, en la recrachant. Et que si on prend pas en compte cette dimension-là pour aider les gens à diminuer ou à arrêter de consommer du tabac, ben on est à côté de la plaque. Donc c'est une dimension aussi qu'il faut prendre en considération pour accompagner toute personne à l'arrêt, et au moins par rapport à l'information aussi.
Tout de suite un extrait du reportage de Nella en 1976.
Oh, j'ai beaucoup tout sauté à ma première cigarette. C'est parce que je savais pas comment fumer exactement. Oh, j'avais 5 ans.
Lors d'une réunion de famille, et ma tante a essayé de me faire fumer. Je devais avoir 7-8 ans.
C'était dans le groupe, c'est venu comme ça parce que tout le temps on m'en proposait. Alors au début je refusais, puis à la fin j'ai quand même fini par accepter de prendre une cigarette. Mais c'était juste comme ça pour m'intégrer au groupe et enfin pour faire comme les autres quoi.
Puis ils fument ça, parce que c'est la mode. Alors ils fument, n'importe quoi.
Si on commence à partir de 14 ans, après ça devient une habitude et puis on peut plus s'en défaire.
Mon père fume et des fois la fumée me donne un dégoût et des fois je lui dis d'arrêter de fumer, mais en vain.
J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas.
Des réactions sur ce reportage?
Non, aucune, normal. Et magnifique votre chanson. On me l'a chanté petit, hein, sur les genoux de mon papy, on me chantait ce truc-là. Donc, bien sûr, enfin, on parlait de la dimension historique tout à l'heure, hein, qu'on sait beaucoup plus de choses sur le tabac aujourd'hui, c'est évident. Il y a plein de choses qui parlent aux professionnels que l'on est, et aussi aux gamins qu'on a été, notamment sur la consommation de la tantine ou le tonton, je sais plus. Hein. Pour ma part, dédicace à tonton Pierrot, hein, qui m'a fait fumer quand j'avais à peu près 8 ans. Ça m'a vraiment dégoûté, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ces expériences qui sont familiales. Et ce qu'évoquait tout à l'heure aussi sur le micro-trottoir une personne, c'est qu'il y a le rapport aux parents qui fait quand on grandit dans cet univers et qu'il y a la cigarette qui fait partie du paysage, ça facilite le fait de consommer. La réalité aujourd'hui, c'est que les moyennes de première cigarette, elles se font à l'âge de 11 ans aujourd'hui. En gros, c'est l'entrée en sixième. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des jeunes de 11 ans qui deviennent dépendants du tabac, mais ça veut dire qu'en moyenne aujourd'hui, sur les études les plus actualisées, les premiers comportements de consommation, le premier rapport au tabac en moyenne, c'est 11 ans.
Donc, d'après vous, les jeunes sont influencés par leur entourage, leur famille, aujourd'hui?
Moi, je pense qu'on a juste à regarder par rapport à son histoire personnelle, si nos parents fument, si nos amis fument, et s'interroger aussi chacun en fonction. Il y a aussi des choses qui ont évolué. On n'a plus le droit de fumer dans les lieux publics. Là, il y avait un petit garçon qui disait ça me dérange quand mon père fume, même dans la voiture, il y a quelques années. Alors là, je fais référence à ma petite histoire personnelle, mais mon père fumait toute fenêtre fermée, quitte à ce qu'on soit malade. Mais voilà, et ça, je pense qu'il y a des évolutions aussi par rapport à ça. Il y a quelques années, c'est la référence aussi Bon, je reviens sur la première séquence, mais le monsieur qui nous parlait de quand il était à l'armée, du tabac qui était mis à disposition. Voilà. Après, si on va dans un bureau de tabac, normalement aujourd'hui, on n'a plus la possibilité d'acheter du tabac si on n'a pas 18 ans. Avant, c'était. Avant, c'était. Voilà, on allait chercher le tabac pour nos parents. Ça posait aucun souci. Donc, les choses aussi évoluent sur l'accès.
Donc, du coup, les néo-fumeurs, aujourd'hui, en 2017, sont plus âgés?
Non.
Pas forcément.
Au contraire, je dirais qu'il y a, une diminution de l'âge des premières consommations. On voit que la moyenne, c'est 11 ans. Ça veut dire qu'effectivement, il y a ce jeune homme qui évoque le fait d'avoir fumé sa première cigarette ou qui a fait tousser très fort, au moins ses premières taffes, à l'âge de 5 ans. La moyenne, c'est 11 ans aujourd'hui. Ça veut dire que les consommations sont relativement précoces. C'est l'âge aussi de la 6e, de l'entrée au collège. On a aussi, par rapport à ces mêmes âges-là, je dirais un peu plus tard, à partir de la 4e, les premières alcoolisations. Mais alcoolisation qui amène alcoolisation ponctuelle, mais intense. Et donc, on voit qu'il y a cet âge de l'entrée au collège qui se perpétue aussi, qui se continue, avec l'arrivée en quatrième et la continuité du collège, des conduites à risque adolescentes. D'où l'intérêt aussi de pouvoir proposer des espaces de consultation spécifiques pour ces jeunes, notamment ce qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, en tout cas pour ma part, l'AMPA gère ce qu'on appelle des consultations jeunes consommateurs qui visent à rencontrer des moins de 25 ans, c'est le choix qu'on a fait à l'AMPA, sur des consommations dites précoces. Ça veut dire de rapprocher l'information et l'accompagnement, s'il est nécessaire, au plus proche possible des premiers moments de consommation. D'où ces temps de consultation très spécifiques à distinguer des XAPA, des centres de soins, puisque l'idée, c'est d'éviter de mélanger dans un même lieu des gens qui ont une problématique alcool dans la durée et des gens qui viennent pour des premiers moments de consommation, notamment de tabac. Mais en tout cas, les CJC, les consultations jeunes consommateurs, existent. C'est important de le rappeler.
D'accord. Tout de suite, un extrait du reportage Cache Investigation sur le menthol.
La cigarette mentholée, c'est une cigarette qui trompe le consommateur. Elle fait croire au cerveau du consommateur qu'elle est plus douce, alors qu'elle n'est pas plus douce du tout. Certes, elle adoucit un peu la bouche, elle adoucit un peu la gorge, mais ça fait que la fumée va beaucoup plus profond qu'une cigarette normale, tout au fond du poumon, où elle crée des effets plus toxiques que la cigarette ordinaire.
Que pensez-vous de la diversité des gadgets proposés aux jeunes pour les inciter à fumer ?
Balèze. Balèze, c'est une industrie à part entière, avec des millions d'euros de chiffre d'affaires, évidemment. Alors, les lobbies, ce qu'on appelle les lobbies, c'est-à-dire en gros des groupements de vendeurs de tabac qui se groupent les uns les autres pour essayer d'assouplir la loi, pour essayer de vendre plus, sont relativement forts. Moins que les lobbies alcool quand même, ils ont pris une grosse claque. On sait quand même que 90% des cancers respiratoires sont dus à des consommations de tabac. Donc quand même, ça en met un coup à ce genre d'industriel. Pour autant, il reste très fort. Là, on évoque la cigarette mentholée. On a bien sûr ce qu'on appelle les cigarettes légères, light, ce que vous voulez, qui visent finalement à se dire c'est moins dangereux, alors qu'on va aspirer plus profondément. La fumée va aller plus loin dans les alvéoles pulmonaires. Et donc, il y a une toxicité aussi qui est importante, qui est extrêmement importante. On voit bien aussi la question de la toxicité qui est moins due finalement au nombre de cigarettes par jour qu'à la durée d'intoxication. Et puis on a vu aussi des cigarettes aromatisées à différents parfums. On voit aussi un tabac qui existe sans agent de texture et de saveur. Aujourd'hui, avec le paquet neutre, ça n'apparaît plus. Mais il y a des cigarettes où on ne rajoute pas des éléments hautement toxique pour adoucir justement le côté âcre du passage dans la gorge et puis favoriser le fait que de nouvelles personnes commencent à fumer. Mais en tout cas, c'est un lobby extrêmement puissant et faut pas minimiser ça, d'où l'importance d'une information objective parce qu'en ce qui nous concerne, on n'a absolument rien à vendre.
Et moi, je pense que si le paquet neutre, c'est aussi une des mesures, bon, ça fait pas tout puisque effectivement il y a des lobbies, mais c'est aussi pour éviter ce côté merchandising un peu présent, il est un peu trop présent. Donc là, il n'y a plus le côté. Avant, c'était marqué en gros light, allégé, ultra légère et tout ce qu'on veut. Là, ça n'existe plus. Ou du moins, déjà, l'apparence du paquet fait que ça a moins d'incidence.
Qu'en pensez-vous des cigarettes électroniques, des patchs et des nicotines, etc.?
Alors, c'est des traitements de substitution nicotinique pour la plupart, les patchs, les gommes, etc. La cigarette électronique, Nous, sur le XAPA, c'est des choses qu'on commence à travailler. Là, on est plus sur ce qu'on appelle de la réduction des risques avec l'utilisation de la cigarette électronique. Et je pense que ça peut être adapté en fonction des personnes, de leur consommation de tabac, si elles souhaitent arrêter, diminuer, en tout cas avoir une autre relation avec leur consommation de tabac.
Par rapport à la cigarette électronique, sur l'IMPA, il y a eu effectivement un temps d'étude qui a été réalisé dernièrement, dont les conclusions sont les suivantes. En gros, la cigarette électronique, c'est un super outil en termes de sevrage. L'important étant de ne pas associer aussi avec des consommations de cigarettes. C'est un formidable outil qui permet de se substituer à la cigarette immédiatement. L'idée, c'est d'éviter d'associer le tabac en même temps. Et comme on disait tout à l'heure, en gros, c'est la toxicité, c'est la durée d'intoxication au tabac, plus que la quantité. Donc si vous prenez une cigarette électronique et que vous rajoutez 2 cigarettes par jour à côté, le bénéfice par rapport à votre santé est extrêmement réduit. Voilà. Et puis l'idéal aussi, c'est encore une fois un outil de substitution, la cigarette électronique, c'est d'éviter évidemment de se mettre à fumer n'importe où, n'importe comment. Ma collègue évoquait, Émilie Chéron, là tout de suite, la question de la réduction des risques. Si on se met à fumer la cigarette électronique en vapotant sur tout le trajet du véhicule, à n'importe quel endroit chez soi, finalement, les effets peuvent être plus problématiques que bénéfiques. D'où l'important de l'utiliser comme substitut, véritablement.
Tout de suite, une pause musicale. À le cigare, Pink Floyd.
D'écouter un extrait de Ave Cigare des Pink Floyd.
Mesdames, messieurs, si je vous ai fait venir en urgence, c'est que nous avons un énorme problème. Nous avons plus de 60 tonnes de déchets toxiques sur les bras. De l'acétone, du cadmium, de l'ammoniac. Il faut absolument trouver une solution pour nous en débarrasser, et vite. J'attends vos propositions.
On peut pas les envoyer dans une usine de retraitement ?
Non, trop cher.
Ou faire comme la dernière fois, on achète un terrain et on les enfouit discrètement.
Ah mais c'est fini cette époque, on aura les écolos sur le dos en moins de 24 heures.
Et les embarquer vers un pays moins regardant.
Non mais c'est tout. Vous pouvez pas me trouver une solution plus simple, plus économique, plus efficace?
Et si on les faisait avaler aux gens?
Avaler? Mais c'est des trucs dégueulasses, ils vont s'en rendre compte.
Non, 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 à petite dose, un peu tous les jours. Ils se rendront compte de rien. Le tout, c'est de les habituer le plus tôt possible. Avec des jeunes, par exemple. Au marketing, les gars n'ont qu'à leur suggérer que c'est cool et rebelle. Ça marche à tous les coups.
Mais ça se présenterait comment, votre truc, là?
Je crois que je vois assez bien comment ça pourrait être.
Arsenic, acétone, DDT, ammoniac, polonium 210. Fumer, c'est servir de décharge aux pires produits toxiques. Ne vous faites pas rouler par la cigarette.
Et ça va nous coûter combien, votre affaire?
Bah rien. Les jeunes sont prêts à payer pour avaler ce merde.
Cette pub date de 2010. Comment trouvez-vous cette pub?
Extrêmement bien faite. Elle est très chouette. Et on évoquait tout à l'heure, j'évoquais les agents de texture et de saveur qu'il y a dans le tabac. Ça, c'est constitutif, effectivement, ce genre de choses. L'ammoniac, ce qui est précisé aussi, si c'est mis à l'intérieur, c'est pas pour le goût, c'est pas pour le parfum, c'est juste que ça accroche encore plus au niveau des récepteurs là-haut. Et en gros, c'est quelque chose qui va multiplier la dépendance physique au tabac. Donc c'est vraiment balèze et la pub est très bien faite.
Oui, il y a pas mal de choses sur ça. Bon, la composition de la cigarette, où effectivement quand on la détache du produit et qu'on annonce tout ça, ça fait un petit peu réfléchir. Et puis on est vraiment sur les questions de dépendance et du tabac, hein, qui est quand même une des substances les plus addictives. Voilà.
Et tout de suite, un deuxième extrait de notre micro-trottoir.
Que pensez-vous des paquets de cigarettes standards?
Moi, je trouve qu'on devrait mettre un paquet uniforme, peu importe la marque. Pas de pub.
Bah, je trouve que c'est bien, oui. Bah, parce que c'est bien.
Ah bah, moi, ça irait plus loin. Il faut interdire carrément la vente. C'est un poison, au même titre qu'une drogue. Hein. Je suis bien placé, parce que j'ai été fumeur pendant des années. Donc, il n'y a pas de problème. Ça déclenche quelque chose dans le cerveau. Au même titre qu'une drogue, l'alcool. Donc, si ça fait mal et ça tue, il ne faut pas vendre. Mmh. Ou alors, il faut mettre le paquet à 40 euros. Il ne faut pas avoir peur. Les Australiens l'ont fait.
Bah après, je pense que quand les gens veulent fumer spécifiquement des Marlboro ou une marque en particulier, je pense qu'ils demandent de toute façon à celui qui tient le bar tabac. Donc je sais pas si ça peut vraiment dissuader.
Ça change rien, je crois. Hein. Franchement, ça change rien du tout, parce qu'un fumeur ou quelqu'un qui est addict et accroché à quelque chose, il fait n'importe quoi, il l'achètera quand même. C'est pas ça qui va dissuader les gens de ne pas fumer.
Je ne pense pas. Hein, les gens sont pas conscients du mal que le tabac fait aux organismes.
C'est l'intérêt plus que le reste.
On parlait tout à l'heure justement de la question de l'emballage. Que pensez-vous que les paquets standards justement dissuadent de fumer?
Dissuader, peut-être pas, parce qu'il y a quand même, il reste quand même des fumeurs. Par contre, ça évite le problème, ce qu'on évoquait, de la pub et ça devienne un petit peu la mode de fumer telle ou telle cigarette, parce que ça renvoie une image plutôt, plutôt positive. Là, l'avantage des paquets neutres, c'est, pour moi, ça peut être celui-là. Après, quelqu'un qui veut fumer, ça a une incidence, mais je pense plutôt chez les plus jeunes et par rapport à la pub.
Effectivement, ça a un impact sur l'aspect marketing des entreprises qui commercialisent le tabac. On peut pas mettre un petit logo joli, en tout cas ça n'apparaît plus. Après, la réalité de ce business, c'est qu'il y a aussi des outils pour le contourner. En passant dernièrement dans un bureau de tabac, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait des petites boîtes qui permettaient de mettre le paquet de cigarettes à l'intérieur. Ce qui fait qu'on évite la notion de paquet neutre. On a un paquet super personnalisé, qui est peut-être un outil de mode même, qu'on met dans la poche. On n'a plus ces vilaines images qui sont pas très chouettes. Et peut-être là-dessus, par rapport aux images qui font peur, hein, le tabattu, enfin tous les éléments qu'on a de cancer de la gorge ou autre, enfin des, bon, les paquets deviennent horribles. Une petite anecdote quand même. En Angleterre, les Anglais sont pionniers quand même, hein, de ces paquets particuliers et des images chocs. Et au niveau publicité, en tout cas prévention tabac, ils sont très rentre dedans. Hein. Ils ont commercialisé à un moment donné un paquet avec une tête de mort dessus. Et pas plus explicite. Le paquet était noir, une grosse tête de mort dessus. Ce paquet a fait un carton chez les adolescents. Voilà. Donc on voit que l'imagerie qui va derrière le côté « ça va vous tuer, ça va vous faire du mal » correspond aussi quelque part pour certains à la logique de transgression qu'on évoquait tout à l'heure. En gros, je m'en fous, je suis au-dessus ou j'ai pas peur. Donc on voit bien que ces histoires de paquets neutres, c'est effectivement un outil en moins pour le marketing et pour le business de ces grosses super entreprises. Maintenant, sur l'impact sur la population, je suis pas sûr que c'est un impact énorme. Sur le coût, il y a un impact. On voit qu'effectivement, c'est un frein pour pouvoir accéder au tabac. Le revers de la médaille, c'est que ça peut accroître des inégalités aussi. Quand vous avez une personne avec très très peu de ressources, ou les minima sociaux, et qui se retrouve finalement à avoir un paquet qui coûte plus cher, comme c'est pas évident, bien évidemment l'arrêt, qu'on n'est pas toujours informé que l'Exapa, que l'Ompa existe, et bien finalement on se retrouve à payer plus pour sa dépendance, et ça a un impact très souvent sur la qualité de ce qu'on mange, et sur le fait de pouvoir payer aussi son quotidien. Donc c'est une mesure qui peut être intéressante pour une partie de la population, mais qui accroît les inégalités d'autre part.
Alors, avez-vous des chiffres sur le nombre de fumeurs en France à nous proposer ?
Alors, on a, comment dire, sur des chiffres, c'est pas vraiment à vous proposer, c'est-à-dire qu'on a des enquêtes, effectivement, alors très souvent il y a un décalage, hein, c'est-à-dire des enquêtes de 2014 publiées en 2016. On a, je crois de mémoire, excusez-moi, mais 34% là de la population majeure qui consomme régulièrement du tabac. Voilà. Donc on voit qu'il y a une proportion importante. C'est un taux qui se réduit, hein, comment dire, d'année en année depuis les années 70. Mais c'est vrai que c'est un taux qui reste encore trop important au regard du coût que ça a, hein, d'un point de vue de la santé. On sait que tout à l'heure j'évoquais les chiffres des premiers comportements de consommation. La moyenne d'âge, c'est 11 ans. Donc c'est la sixième ou l'entrée en sixième qui correspond aux premières cigarettes qui sont consommées chez les jeunes. On voit que ce chiffre, il est un peu plus tard. En ce qui concerne les filles. C'est-à-dire que les filles vont plutôt consommer vers l'âge de 14 ans, c'est-à-dire vers la quatrième. Après, avec un rattrapage, je dirais, qui se fait, on a un équilibre aujourd'hui filles-garçons par rapport au tabac. Sur le cannabis, si on veut effectivement ouvrir aussi à d'autres conduites à risque, parce que le tabac fait partie des dangers, bien sûr, le cannabis est une réalité aussi de société et de comportement de consommation qui fait partie du paysage. On a plutôt des premières consommations aussi qui arrivent sur une moyenne d'âge de 14 ans. Donc là aussi, plutôt quatrième. Je dis bien moyenne d'âge, hein. Il y a des comportements de consommation parfois de cannabis qui viennent beaucoup plus tôt ou qui sont parfois beaucoup plus tardifs.
Et avez-vous des chiffres au niveau local, donc au niveau d'Évreux?
On est sur une moyenne nationale en ce qui concerne les chiffres que moi j'ai à disposition. Voilà, il y a des disparités sur les chiffres. Hein. On sait que par exemple sur le territoire de la Normandie, puisqu'aujourd'hui on parle en grande région, hein, sur la Normandie, on a une prévalence, une réalité de comportement de consommation d'alcool qui est plus importante que sur d'autres territoires en France. Voilà, ça c'est une réalité. Et on sait aussi que par rapport aux maladies cardiovasculaires ou aux maladies respiratoires, là aussi, on peut battre certains records. D'où l'importance aussi, hein, de présenter l'offre de soins qui existe sur le territoire. Et c'est pour ça qu'on vous remercie aussi de nous avoir invités aujourd'hui.
Et quel est le profil des gens qui sont pris en charge en général par le XAPA ou l'AMPA ?
Alors sur le XAPA et Daché de l'Abri, on intervient auprès des personnes qui ont des problématiques addictives, alcool, tabac, produits illicites, médicaments. Voilà, on intervient un peu sur les addictions comportementales, c'est-à-dire, je sais pas, ça peut être alimentation, ça peut être jeux vidéo, jeux en ligne, etc. Voilà, et puis on intervient aussi, ça fait de nombreuses années, pour la délivrance de produits de substitution, notamment de la méthadone. Voilà, dans notre centre, donc on... Bon, c'est un petit peu historique. Voilà. Et puis, que dire de plus, oui, c'est principalement notre public. Et puis, en sachant que par rapport au tabac, on a On accueille à peu près 300, ce qu'on appelle une file active, 350 personnes par an. Enfin, faut savoir que 90% des personnes qu'on accueille fument, ont une dépendance au tabac. Après, c'est des choses qu'on va travailler avec eux, mais il peut y avoir d'autres. Voilà, c'est rarement des personnes qui ont une seule addiction.
En ce qui concerne l'AMPA, donc, on est une structure située au centre-ville d'Évreux, au 9 rue du Long. On a une population, je dirais, qui est extrêmement large. On peut pas faire on peut pas catégoriser. On a bien sûr, comme l'évoquait Émilie tout de suite, des personnes qui viennent pour les problèmes de dépendance à des opiacés, notamment, hein, tout ce qui est dérivé de l'héroïne ou héroïne elle-même. Les traitements de substitution sont prescrits aussi, mais il n'y a pas de délivrance sur place. On est aussi, on reçoit énormément de personnes concernées en première demande, hein, par des problématiques d'alcool. Et très souvent, dans les premières demandes, on fait un point avec les personnes sur la réalité des comportements de consommation, sur les autres produits qui concernent aussi leur quotidien. On se rend compte que le tabac fait très souvent partie aussi de l'association avec l'alcool ou avec les autres produits qu'on évoquait juste avant. On a aussi une autre population qui vient plutôt pour les problématiques spécifiques tabac. On a des consultations tout à fait adaptées, avec possibilité de prescrire aussi des substituts nicotiniques. On a des conventions aussi à l'AMPA avec une pharmacie, notamment la pharmacie principale qui fait partie de nos partenaires au centre-ville d'Évreux, pour lequel nous on propose la prise en charge sur les premiers mois de substituts nicotiniques. Nous on paye en gros les substituts pour les personnes, pour favoriser le fait qu'elles puissent se faire aider quand c'est nécessaire par un substitut nicotinique, par une convention avec la pharmacie principale. Et comme je l'évoquais aussi en premier lieu, on reçoit aussi évidemment beaucoup l'entourage. Ça veut dire que il y a des personnes qui viennent nous rencontrer pour une information, pour un soutien, parfois juste pour une doc, hein, tout simplement, ou un échange, et qui sont pas directement concernés, mais c'est pour un proche. Donc vraiment, c'est très large au niveau du public qu'on reçoit.
Et justement, comment vous abordez quand une personne vient pour un proche, justement ?
Très souvent, il y a une angoisse. On a envie d'aider, on a envie de soutenir. L'angoisse n'est pas la même si c'est les parents ou si c'est un grand frère ou si c'est l'entourage, la tantine, le tonton. Mais effectivement, nous déjà, c'est d'apaiser, d'entendre cette demande-là. Très souvent, bien sûr, nous, ce qu'on propose, c'est une information objective sur les risques. Parce que parfois, on peut abaisser les angoisses, le niveau d'angoisse. Parfois, au contraire, on se rend compte qu'il y a une problématique qui est importante. Parfois, la problématique, elle est plus importante même que le produit qui est consommé. Je vous donne un exemple très vite. Quelqu'un qui vient parce que son enfant fume du cannabis. Bien sûr, c'est une angoisse pour les parents. Évidemment, déjà, c'est un produit interdit, donc il y a un risque particulier par rapport à la loi. C'est un produit aussi qui amène des conséquences sanitaires, évidemment, des conséquences aussi peut-être sur l'apprentissage ou ce genre de choses. Et donc, on va informer le parent par rapport à ce niveau de danger à connaître, parce qu'il y a des informations qui relèvent de la peur et du fantasme, il faut casser ça, et des vraies informations objectives. Et puis parfois, c'est aussi d'apaiser, hein, c'est de faire en sorte qu'on rencontre le jeune pour l'informer à son tour, mais c'est aussi de rassurer le parent. Pour d'autres situations, le cannabis, c'est presque un symptôme d'un mal-être plus important. Et c'est là où, avec aussi d'autres partenaires, on soutient le parent pour qu'il puisse y avoir un soutien adapté et à la mesure de la difficulté. Et parfois, c'est bien au-delà de la question du produit. Sinon, évidemment, pour toute personne concernée par une demande, c'est de travailler sur où elle en est par rapport à ses consommations. Quel est son souhait aussi ? Est-ce qu'elle souhaite arrêter ? Pas forcément. Parfois, c'est une demande d'information ou diminution. Et comment on l'aide avec tous les outils qui sont les nôtres ? Que ce soit la substitution ou les outils de réduction des risques ou tout simplement les suivis infirmiers, de travailleurs sociaux ou de psychologues, comment on peut soutenir aussi avec tout ça le fait que la personne aille mieux et puisse se libérer, se détricoter ce rapport à la dépendance.
D'accord. Et pour poursuivre, je vous propose d'écouter un extrait de Cache Investigation.
Je suis quelqu'un qui, en général, est contre les interdictions. Il est probable que sur les amendements que j'ai pu déposer ou sur les prises de position que j'ai effectuées, je suis plutôt quelqu'un qui est contre toutes sortes de réglementations, d'interdictions. Les messages sur la santé sont utiles, mais je pense que c'est pas déterminant pour faire cesser quelqu'un de fumer. Ce n'est pas l'industrie du tabac qui tue, c'est la nicotine. L'industriel ne fait que produire quelque chose dont l'être humain a envie de consommer. Vous analysez ça comme quelque chose qui tue, moi j'analyse ça comme quelqu'un qui s'achète du plaisir. C'est un produit où l'être humain prend du plaisir. si la consommation du tabac fait plaisir à des êtres humains, moi je suis contre l'interdiction. Ce qui est le plus fort, c'est la volonté des êtres humains d'accomplir un acte. Et lorsqu'un être humain veut accomplir un acte, il n'y a rien qui va lui résister. À partir du moment où un consommateur de tabac veut consommer du tabac, qui transite par la mafia, par... Alors par contre,
si... Donc, si je veux acheter de l'héroïne, je peux.
Par contre,
c'est
si,
ça. Parce que si je veux acheter de l'héroïne, je peux.
Non, parce que sur l'héroïne, il y a des phénomènes d'accoutumance qui sont de telle sorte que...
Le tabac aussi.
Comment?
Il y a des phénomènes d'accoutumance au tabac.
Oui, mais vous pouvez vivre en fumant du tabac.
700 000 morts par an. Oui. Combien l'héroïne cause combien de décès par an en France?
Je ne sais pas.
Propos recueillis par Cache Investigation auprès de Jean-Pierre Audi, eurodéputé. Je vous invite à réagir dessus.
Vraiment, je n'ai pas vu le Cache Investigation là, mais j'avais envie de voir l'image là. Vraiment. C'est magnifique. C'est magnifique d'hypocrisie et de langue de bois. C'est vraiment fabuleux. Enfin, c'est génial. Donc on voit bien à cet endroit la puissance de l'industrie, la puissance du lobby, le lien avec le politique. Quel intérêt à défendre la liberté individuelle si à un moment donné on va légiférer ailleurs et surtout on va légiférer sur ce qui tue le moins. Vraiment. La question de l'héroïne aujourd'hui, c'est une réalité de société pour une minorité de personnes, mais par rapport à la santé, par rapport au coût pour la société, c'est bien évidemment le tabac et l'alcool. Ce monsieur est contre l'interdiction parce que ça rapporte, parce qu'il y a un bénéfice direct ou indirect. Je ne connais pas ce monsieur personnellement, mais ce serait intéressant de voir ces liens particuliers qui l'unissent au lobby qui propose du tabac. Moi, ce que je retiens surtout, en hypocrisie crasse, vraiment, excusez-moi du terme, c'est ce n'est pas l'industrie du tabac qui tue, c'est la nicotine. C'est bon, ça.
Ouais.
Bravo, bravo. Et je ne sais pas de quel gouvernement fait partie ce député, à quelle époque ça a été, enregistré l'interview. Mais vraiment, vraiment, j'aimerais... c'est le nom de quel député, déjà? Le nom du député?
Jean-Pierre Audi, eurodéputé.
D'accord, mais écoutez, je voilà. Okay.
Et donc, pour compléter, justement, la formation, donc il y a 750 morts par an avec l'héroïne, donc qui est beaucoup moins que le tabac.
Oh, on savait bien que c'était... par rapport aux morts, aux décès liés au tabac, on se doutait bien que c'était... voilà, d'où l'hypocrisie. Et,
c'est
voilà.
C'est magnifique. Donc,
la seule chose sur laquelle on pourrait être d'accord, c'est que quand même, quand il y a de la consommation d'un produit, quel qu'il soit, tabac ou autre, il y a quand même, pour un grand nombre de personnes, la recherche de plaisir. Mais...
Et puis
à part ça.
Et tout à fait, alors oui, mais alors, sauf que là, c'est utilisé comme étant une espèce de défenseur des droits et de l'accès au plaisir. Ce type est un humaniste.
Je dis bien, c'est la seule petite chose et bon, c'est pas tourné dans le bon sens, mais.
C'est ça, et avec en même temps une utilisation là hypocrite, puisque le plaisir. Alors après, c'est vraiment intéressant à interroger, hein. Mais le rapport au plaisir, ça doit s'interroger pour soi aussi. Si je vais bien. Si je suis à l'aise avec mes relations, mes copains, ma famille, le reste, la drogue, je prends vraiment une phrase générale, hein, qu'elle soit autorisée ou interdite, va peut-être m'apporter du plaisir. Il va être relatif, ce plaisir. Si par contre j'ai une souffrance, une angoisse, un mal-être, quelque chose de douloureux sur moi, quelque chose qui va m'atténuer la douleur, va m'apporter un grand plaisir. Donc c'est aussi une notion là qui est utilisée par un député pour vendre.
Totalement détournée, on est bien d'accord.
Complètement détournée. Donc c'est vraiment bravo l'hypocrisie, on appréciera en tout cas pour ce monsieur-là.
Et tout de suite, nous écoutons un extrait de Gaston Franco, un autre eurodéputé.
Un haut fonctionnaire ne peut pas être déconnecté de la réalité économique de la vie.
Et en même temps, vous avez été élu par les citoyens.
Bien sûr.
Pour que vous les représentiez, représentez leur intérêt, et pour vous écriviez... L'intérêt général, et pour en imaginant que vous alliez écrire vous-même les lois...
C'est très théorique, ça. C'est vrai que quand vous êtes élu pour votre premier mandat parlementaire, vous dire « je vais faire les lois ». Et puis après, ça vous convie à beaucoup d'humilité. Parce que c'est les autres qui les font. C'est les autres, ce sont les autres qui les font.
Vous aussi, vous aimeriez bien filer un coup de main à votre député, mais vous vous demandez comment faire ? Eh bien, c'est très simple. Faites comme chez Philippe Maurice, écrivez vous-même les amendements à la place du parlementaire. Puis, apportez-les lui dans son bureau. Votre élu n'aura plus qu'à les signer, à les déposer, et hop, c'est voté.
Oui, d'abord ça veut dire que les tous les amendements ne nous ont pas intéressés. Hein, donc on ne s'est pas contenté de contresigner les amendements.
2 sur 18.
Oui, mais donc ça veut dire que nous avons quand même une marge d'appréciation. Deuxièmement, ce que je veux dire, c'est que cette procédure est courante. C'est-à-dire que chaque lobbyiste, lorsqu'un texte arrive en séance, fait son travail et propose des amendements.
Des réactions par rapport à...
Rappelez-vous, ça vient d'où cet extrait ?
De Cache Investigation.
Toujours.
Donc ouais. Ce sont des eurodéputés de 2015.
Ok, on dirait un sketch. Vraiment, j'ai cru que c'était un détournement. C'est génial.
Mais on vous invite justement à regarder le reportage de Cache Investigation qui est très bien fait.
Bien sûr, c'est génial. Ok. Donc les députés ne peuvent pas être déconnectés des réalités économiques. Ça, je l'ai noté. C'est vrai. C'est important. C'est une réalité. Ça peut pas être que de la démagogie ou simplement faire plaisir à un électorat. C'est aussi une réalité, l'économie. Par rapport au tabac, par rapport à l'alcool, ça nous coûte bien plus cher que ça nous rapporte. Déjà. Et si on s'intéresse aux politiques dans leur globalité, on voit bien que mettre quelqu'un à l'hôpital a un coût bien plus important à un moment donné. Donc il faut s'intéresser aux chiffres de ce que ça nous coûte en santé, aux chiffres de ce que ça rapporte aussi à un moment donné en taxes ou en impôts. Et tout cet équilibre-là, mis bout à bout, fait que c'est un coût pour notre société et pas un bénéfice. Donc le député, s'il n'était pas déconnecté des réalités économiques, aurait une vision beaucoup plus globale et pourrait s'intéresser effectivement à mettre beaucoup plus de moyens sur la prévention, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, ce qu'on peut apprécier aussi, c'est que finalement, c'est très théorique le fait que le député fasse les lois. C'est ce que je retiens ici.
Oui, on voit qu'il n'est pas intéressé par tous les amendements.
Bon.
Et puis qu'il y a une petite marge d'appréciation. Bon, je crois que sur 2 amendements sur 11...
C'était 18. 16 sur 18.
D'accord.
Ouais.
Bon, voilà. Cette marge d'appréciation, et puis on voit bien que les lobbies sont encore très, très présents. Et la marge d'appréciation, on a l'impression qu'elle est juste par rapport au lobby.
Monsieur Lange,
je voudrais faire un tout petit pas de côté et peut-être nous intéresser ici à l'alcool. L'ANPA développe énormément d'énergie aussi pour faire appliquer la législation et s'assurer, parfois en attaquant aussi, d'un point de vue judiciaire, les entreprises ou les actions qui seraient pas en accord avec la loi E20. On s'est beaucoup intéressé à l'ANPA, à la question de l'alcool et de l'information pour les femmes enceintes. Et là, je vous laisse apprécier. Vous verrez aujourd'hui, sur les bouteilles d'alcool, quelles qu'elles soient, vous avez un petit logo qui est dessus. L'ANPA a beaucoup travaillé aussi pour qu'il y ait la reconnaissance de cette information-là. Ce petit logo, c'est une femme enceinte qui est barrée avec un petit avertissement, vous savez, comme on a sur les panneaux d'interdiction de stationner, ce genre de choses. Les lobbies ont réussi, les vendeurs d'alcool, ont réussi à se battre pour que ce petit logo ne soit pas plus gros que le petit logo lié au recyclage. Vous savez, quand on recycle les bouteilles, le papier, ce genre de choses, regardez vos bouteilles chez vous, si vous en avez, ou dans les grandes surfaces, si vous les voyez, et vous les verrez dans les grandes surfaces, c'est très apparent, vous verrez ce petit logo qui a exactement la même taille que celui du recyclage. C'est intéressant de voir à quel point, de manière plus ou moins fine, mais parfois très fine, ils ont une influence jusqu'au message de prévention pour le mettre à égalité avec la question du recyclage. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être pour le recyclage, on est d'accord. Mais là, on s'attaque quand même à un sujet de santé publique extrêmement important et à la santé d'un enfant à naître. Voilà, c'est tout.
On parlait justement des coûts. Donc je vous propose d'écouter justement un extrait de Jim Brabeck qui parle notamment des retraites.
D'après notre enquête, vous avez mené une étude sur les fumeurs et vous en avez conclu que ces morts prématurées pouvaient permettre à des gouvernements de faire des économies. Quelle était exactement la méthode retenue pour ce type de calcul ?
Je ne sais pas. Désolé.
Mais juste de manière générale, comment avez-vous travaillé pour Philip Morris ?
C'est très difficile pour moi d'en parler publiquement. Parce que pour nous, c'est trop risqué en termes d'image publique. Alors, ce serait bien de passer à la question suivante.
Mais c'est très intéressant. Parlons-en seulement 5 minutes.
Ok, bon, on a fait ça pour Philip Morris. Et cette étude a également été menée dans d'autres pays. Et nous, on l'a fait ici en République tchèque. Mais on a eu de très mauvais retours de la part des politiques. Aussi sur le plan marketing. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas en parler publiquement.
Mais on est bien d'accord, vous en êtes arrivé à la conclusion que ces gens qui meurent ont un impact positif sur l'économie du pays, c'est exact?
Ouais, c'est exact.
Et du coup, l'économie réalisée était de 147 millions de dollars, c'est bien ça?
Ouais.
Vous savez, nous en France, on a un gros problème avec les retraites aussi. Comment vous avez fait ce calcul?
C'est très très simple comme calcul. D'un côté, vous avez des rentrées d'argent, et de l'autre, vous avez des dépenses dans le domaine de la santé.
Comme le traitement du cancer du poumon, par exemple.
Ouais, par exemple.
And it was this balance, this system, and this is this.
Et donc c'était ce calcul. Et ça a montré que vous, en tant que fumeur, il est préférable que vous mouriez. C'est mieux ainsi. Parce que sinon, ça va coûter trop d'argent de vous soigner, de vous hospitaliser. Enfin, ça coûte vraiment trop d'argent.
You should be in a hospital. It costs a lot of money, etc.
Alors, je vous invite à une courte réaction sur cet extrait de reportage.
Ouais, quand les études parlent et qu'elles sont financées aussi par Philip Morris et autres, je reste un peu sans voix.
Tout est dit. Je crois que c'est d'un formidable cynisme. Vraiment, c'est magnifique. C'est presque trop grossier, vraiment. Mais bon, c'est intéressant. Je trouve que vous avez drôlement bien travaillé pour arriver à trouver ce genre d'informations. C'est pas mal. Mais oui, effectivement, on peut aller pousser le cynisme à l'extrême et dire que quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qu'on soigne pas. Et à partir de là, c'est une économie. C'est vrai. Mais on voit bien que, voilà, à un moment donné, quand on cherche à faire de l'argent, on est forcément déconnecté de la question de l'intérêt public, de la question de la santé d'une population, évidemment. Et je crois que là, c'est très caricatural. Ouais.
Ah, super.
Je vous renvoie vraiment à regarder Cash Investigation.
Et tout de suite, nous écoutons une chanson de Super Flip, depuis que je ne fume plus de
shit.
Et que la vie est brève. Je suis bien dans la rue, je suis bien dans ma tête. Et dans mes sweatshirts et mes pulls, je n'ai plus trop de boulettes. Je fais du sport, je me lève à 8h. Fini les grasses matins interminables jusqu'à 4h. Je suis plus vif et je me trouve plus beau. Fini les yeux rouges, le teint pâle, la parano. Par un petit bout.
Et c'était depuis que je ne fume plus de shit de stupéflip.
Donc justement, depuis le début, nous avons parlé du tabac, nous avons un peu évoqué l'alcool, mais est-ce que justement l'addiction du cannabis est comparable à celle du tabac ?
Bah, y a déjà aussi la consommation de cannabis avec du tabac. Donc, comparable, voilà, mais en tout cas, il y a pour un certain nombre de personnes consommation de cannabis associée à du tabac. Donc,
Alors souvent, c'est vrai que c'est, vous avez raison, Émilie, c'est une association des deux problématiques, enfin problématiques. Oui, des deux problèmes. Le premier, le tabac, qui d'un point de vue de la santé, du coup pour la santé, on l'a évoqué, on va pas revenir dessus, qui est vraiment un coût mais extrêmement important avec des conséquences importantes pour les consommateurs. Le cannabis se rajoute, la particularité du cannabis, c'est que c'est un psychotrope. Alors le tabac aussi, mais en tout cas dans une moindre mesure, fumer du cannabis amène des effets aussi qui ont une incidence sur finalement ses réflexes, sur la, comment dire, une certaine spontanéité. Il peut y avoir des effets secondaires aussi à ces effets psychotropes, hein. C'est bien exprimé d'ailleurs par Subflip, là, c'est vachement, elle est sympa cette chanson, sur le, comment dire, sur la question du sommeil, notamment la qualité du sommeil, hein. Depuis qu'il a arrêté de fumer du shit, bah, il rêve à nouveau. Il refait du sport aussi, ça le motive. Et puis, il regarde beaucoup moins la télé. Effectivement, sans être anesthésié, parfois c'est compliqué de regarder la télé. Donc, en tout cas, il a trouvé du taf. Alors ça, c'est attention, hein. Arrêter de fumer du cannabis va pas nécessairement vous amener un travail dans les mains. Mais ce qui est certain, c'est que pour l'aller vers, pour se sentir plus à l'aise avec l'extérieur, moins replié sur soi, le cannabis pour certains peut avoir une incidence importante. Voilà. Donc l'idée, c'est pas de dire arrêter le cannabis, c'est mal. C'est une réalité. Voilà. Des conduites à risque, c'est une réalité aussi des soirées, de certains contextes. Après, c'est la consommation quotidienne importante a une incidence. La consommation ponctuelle aussi. Hein. On le sait par rapport au risque routier. On le sait par rapport aux assurances, notamment hein, s'il y a un accident sous l'emprise de cannabis, puisque le cannabis a une durée de vie dans le corps qui est importante. Donc, effectivement, c'est des dangers différents, complémentaires souvent avec le tabac, d'où l'importance de l'information objective sur tout ça et d'arriver à détricoter. Parfois, certains ne fument pas de tabac, en tout cas de cigarettes seules, pardon, et ne fument que du cannabis. Mais parfois, leur dépendance au cannabis et au rituel de rouler les joints est souvent due au fait qu'il y a une dépendance au tabac. Donc, c'est important aussi des centres où vous avez une information objective, où l'intervenant sait de quoi il parle. C'est-à-dire que les informations, elles viennent pas de comment dire, d'informations fausses. C'est vraiment quelque chose de travailler en lien avec des usagers aussi. Ce qu'évoquait Émilie sur l'association au tabac, on sait qu'il y a des vaporisateurs qui évitent l'utilisation du tabac. C'est très souvent utilisé dans le cadre du cannabis thérapeutique, qui n'existe pas en France. Et puis, on sait aussi, sur le travail qu'on réalise en réduction des risques, que, en fonction des filtres qui sont utilisés, en fonction de comment on roule aussi une cigarette ou un joint, on va avoir une incidence aussi sur la santé et sur la sphère respiratoire. Donc c'est très subtil, mais c'est tout ce travail qui est fait au niveau des centres de soins dans lesquels on travaille.
D'accord. Et tout de suite, un autre extrait de notre micro-trottoir.
Quelles mesures pensez-vous être efficaces pour que plus personne ne fume ?
La très grande hausse du prix des paquets de tabac. Et du tabac en général, parce que le tabac a roulé également, le tabac...
C'est la vente, faudra arrêter la vente. Faut arrêter la vente, c'est tout. C'est tout simplement, faut arrêter la vente. Comme ça, les gens ne fumeraient pas.
Exactement.
Mais ils pourront jamais arrêter la vente parce que ça rentre trop dans les poches de l'État.
Oui.
Donc ils arrêteront jamais la vente.
Qu'on évite d'aller acheter les cigarettes hors frontières déjà, payer le paquet moins cher, l'augmentation de la cigarette, oui. Le prix de la cigarette.
Présumer, c'est un état d'esprit, c'est une liberté. Plus personne ne fume, non. C'est comme si on retirait quelque chose, c'est un droit quand même.
À la fin. Ça va être un peu dur hein, quand même.
Ouais.
Oui, parce que pour les gens qui fument déjà, c'est avec le monde qu'il y a.
Ouais.
Mais voilà.
Ne plus vendre de tabac. J'ai envie de dire, voilà, c'est radical, c'est... Bon, j'en vois pas d'autres, non, très honnêtement, je vois pas. Augmenter le prix, non. Ça augmentera la contrebande, ça augmentera... c'est connu, archi connu. Au 19e siècle, on faisait déjà du trafic de tabac entre les Anglo-Normandes et la France.
Je pense qu'augmenter le prix des paquets, ça peut faire changer quelque chose, mais pas vraiment en masse, parce que de toute façon, les gens, ils sont accros et que, voilà...
Prendre la vie d'anciens fumeurs et de leur expliquer ce qui est arrivé aux fumeurs actuels, ça aiderait peut-être.
Et d'après vous, justement, quelles seraient les mesures efficaces pour arrêter de fumer rapidement ?
Bah, ça part déjà d'une volonté de la personne, d'une volonté ou du moins qu'elle le souhaite ou qu'elle se pose les questions. À un moment donné, on reçoit quand même des personnes qui nous disent qu'elles veulent soit diminuer leur consommation de tabac, soit l'arrêter, voilà, et qu'il y a un espace d'échange et d'information. Je reviens avec des professionnels pour voir ce qu'on fait de cette demande, à quel moment elle intervient, et puis c'est pas ça peut, parfois on a des personnes qui viennent recevoir, qui viennent échanger, avoir de l'information et qui vont se projeter un petit peu plus tard sur l'arrêt ou la diminution du tabac. C'est pas voilà, c'est un processus, ça peut être un processus, c'est pas c'est quelque chose qui se travaille et c'est pas instantané.
Et on l'évoquait tout à l'heure, hein, c'est rapprocher effectivement les informations objectives, les accompagnements proposés aussi au plus proche des premiers moments de consommation, d'où l'intérêt des consultations jeunes consommateurs. Et puis peut-être aussi développer la prévention. Je sais qu'à l'OMPA, on travaille énormément sur la prévention. On a une équipe de prévention qui est basée à Sotteville-lès-Rouen et qui intervient sur toute l'ex-Haute-Normandie, mais la Normandie dans son ensemble. Et c'est vrai que la prévention est un outil important de lutte contre les premiers temps de consommation et grâce à une information objective. Ça, c'est extrêmement important.
Et donc, pour conclure cette émission, je vous laisse vous exprimer librement sur le sujet et ce que fait vos associations.
Ou ce qu'on aurait oublié.
Et ce qu'on aurait oublié aussi.
Non, je voulais revenir aussi sur l'augmentation des prix. Parce que là, dans ce qu'on a entendu, c'est un petit peu la solution miracle, en tout cas pour certains. Voilà. Ça a son importance parce qu'on voit quand même dans les chiffres, ça fait diminuer le nombre de fumeurs. Mais on parle de paquets qui vont arriver à 10 € d'ici quelques temps. Voilà. Mais je pense que c'est bon. On le sait bien, c'est pas une solution radicale et pour tout le monde. Voilà, je pense qu'il faut retenir que par rapport aux addictions, il faut prendre en charge les personnes. Dans un premier temps, c'est aussi de l'échange et de faire avec les personnes là où elles en sont et ce qu'elles veulent par rapport aux différentes dépendances.
Rappelez aussi, surtout ce qu'on évoquait tout à l'heure, on existe sur Évreux, on existe sur tous les territoires de l'Eure aussi. On peut nous rencontrer évidemment, là je vais juste parler pour l'OMPA, on est situé au 9 rue du Long à Évreux. On vient juste de déménager d'ailleurs, donc c'est important aussi de pouvoir le dire ici. Notre numéro de téléphone c'est le 02 32 62 02 21. 02 32 62 02 21. Et donc on peut venir nous voir juste pour une info, juste pour voir comment c'est, juste pour rencontrer n'importe qui, professionnel bien sûr, pour pouvoir être accompagné si c'est nécessaire. Donc ce sera un plaisir de vous retrouver là-bas si vous le souhaitez.
Donc pour le XAPA et Nation Labri, on est situé au 47 rue de la Forêt, sur le quartier de la Madeleine. On est ouvert, disponible, et puis n'hésitez pas à nous contacter. Le numéro de téléphone 02 32 62 00 62.
Nous vous rappelons que nous avons utilisé donc des extraits de Cache Investigation ainsi qu'un reportage de Lina. Nous étions donc en compagnie de Monsieur Lange de l'ANPA et de Mélanie Chéron du XAPA.
Merci de votre invitation, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et tout de suite, un extrait du témoignage.
Au revoir. Au revoir.
Et merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Ouais, merci, à bientôt.
Merci, au revoir.
Si on pouvait s'en passer, j'essayais aussi, j'étais fumeur, je fumais un paquet par jour. Mais c'est pas l'argent qui m'a fait arrêter, c'est la santé. J'arrivais, j'avais 40 ans, je soufflais quand je montais 4 étages, quoi, c'est pas normal. Là, depuis que j'ai arrêté, j'en ai 66 et je peux les faire en courant, les escaliers. Mais disons que si c'était juste pour le plaisir, pourquoi pas, je comprends très bien que c'est un petit plaisir. Même au bout de 15 ans, j'ai toujours envie de fumer. C'est pour dire que dans le cerveau, les neurones, ils sont bloqués. Et la petite cigarette de l'après-midi, après le café. Alors il y a des gens qui peuvent très bien en fumer 3-4 par jour ou par semaine. Tant mieux, ça peut être un plaisir quelque part, mais en fait le but du produit c'est quand même pour habituer les gens.